Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, au Copy Service. Merci de rester fidèle à votre programme. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la lutte contre la vie chère en République démocratique du Congo. Que peuvent être les effets de la suppression de certaines taxes à l'importation? On en parle aujourd'hui parce que le gouvernement envisage de supprimer certaines taxes sur certains produits. Enfin, et cela va influer sur le prix sur le marché. Alors, mais cela peut aussi avoir des effets domino. Voilà. On en parle avec Monsieur Jérôme Sekana Pene Papa. Il est coordonnateur de la Cibel Toile d'Araignée. Jérôme Sekana, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, le sujet vous intéresse, eh bien, appelez-nous déjà au 089 55 98 337. 089 55 98 337. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Grâce à Mvuezolo et Julie Fezabongonda, à Cordonne et assure la réalisation de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Jody Daniel au micro. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire. L'école primaire publique est gratuite. Enfants, filles et garçons, tous à l'école. Pour plus d'infos, envoyez rentrée au 101.
Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en partenariat avec l'UNICEF.
Bien, le gouvernement congolais est déterminé à lutter contre la vie chère sur l'ensemble du territoire national. Certaines taxes à l'importation sur les produits des premières nécessités comme le riz, le lait, la farine, l'huile des palmes et autres seront supprimées pour avoir, pour obtenir la baisse des prix de ces articles sur le marché. Et cependant, la suppression des taxes sur certains produits alimentaires comme l'huile des palmes peut porter à un coup fatal sur la production locale selon la belle toile d'araignée. En favorisant les importations, on privilégie les producteurs étrangers au détriment des producteurs locaux, selon cette organisation. Alors que faire pour lutter contre la vie chère tout en soutenant les producteurs locaux? On en parle avec Jérôme Sekana, qui est coordonnateur de la Cibel Toile d'Araignée. Monsieur Jérôme, bonjour.
Bonjour, Jody.
Bienvenue dans cette émission.
Ça fait plaisir de vous retrouver après plusieurs années.
Hein. Ah oui, bien sûr. Alors, lutter contre la vie chère, c'est une bonne chose.
Une très bonne chose. C'est ça, d'ailleurs, la mission du gouvernement. Mmh. Et nous sommes d'accord avec le gouvernement lorsqu'il cherchait à trouver des solutions adéquates pour améliorer les conditions de vie de la population et pour essayer de soulager le panier de la ménagère, pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mmh. Bon, tout ce que nous essayons un peu de dénoncer, c'est qu'il y a eu une précipitation, il fallait faire les choses, parce que quand on propose des anciennes recettes qui n'ont pas donné des bons résultats par le passé, eh bien, nous n'évoluons pas, nous marquons les pas.
Ouais.
Mais d'entrée de jeu, au niveau des toiles d'araignée, nous applaudissons des deux mains et nous sommes contents que le gouvernement puisse essayer un peu de rencontrer les besoins de la population. Mmh. Il vous souviendra, il y a quelques semaines, le gouvernement avait pris des bonnes mesures cherchant à supprimer certaines taxes ou à diminuer, c'est le cas par exemple des droits des douanes qui ont été revus de moitié, c'est-à-dire 50% de moins en ce qui concerne le produit. Il y en a 7 au total.
7 produits, lesquels?
Le maïs,
oui.
Le manioc, mmh. Le riz, l'huile des palmes, le sucre, la viande et les poissons. Alors, quelques jours après avoir pris cette décision, nous avions la chance d'être en face de son Excellence Monsieur le VPM, le vice-premier ministre et ministre de l'économie. Le professeur Moukoko Samba, que nous saluons en passant, un grand économiste de renom. Et nous avions émis des réserves. Nous avions posé la question à son Excellence, est-ce que vous avez fait des études préalablement avant de prendre cette mesure? Pourquoi nous avions posé cette question? Et nous l'avions démontré, je veux le faire encore. Vous savez, nous avons un budget de 15 milliards et demi par là. Et ce budget, nous les mobilisons difficilement. Et dans la partie Est, La DGDA, par exemple, n'a plus le contrôle de Bunagana, n'a plus le contrôle de Ishasha. Il n'y a que Kassindi que nous continuons, mais ça ne donne pas. Et quand vous regardez les recettes au niveau de la DGDA n'arrive pas à crever tous les plafonds des assignations de chaque mois. Alors, nous nous sommes dit ceci. Au même moment, le gouvernement veut que les régies financières mobilisent les recettes au-delà des plafonds des assignations.
Oui.
Mais au même moment, le gouvernement prend une mesure d'exonération. Parce qu'il faut le rappeler, la mesure proposée, ou l'ensemble, le train des mesures proposées par le gouvernement, ce sont des exonérations. Et il faut qu'on s'entende très bien dès le départ. Retenez que dans chaque milliard de francs congolais mobilisés par les régies financières en République démocratique du Congo au jour d'aujourd'hui, nous perdons plus ou moins 400 millions. C'est-à-dire, il y a 400 millions de francs congolais qui se volatilisent, qui auraient dû être mobilisés, mais qui ne les sont pas tout simplement parce que il y a des exonérations dérogatoires. Des exonérations qui font que, au lieu que la régie puisse mobiliser, par exemple, 1,4 milliard des francs, mais la régie se contente de mobiliser 1 milliard.
Donc, à cause des exonérations.
Et si on rajoute ça, quand les gouvernements viennent encore dire, écoutez, parce que je vais soulager les paniers de la ménagère, je dois encore rabattre des moitiés.
Alors les régies ne vont plus atteindre leurs assignations.
Et pas seulement ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément.
Oui.
Sachez que le gouvernement va aller, en ce mois de septembre, déposer ce qu'on appelle les collectifs budgétaires. C'est-à-dire, on doit retoucher le budget de l'État. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le budget 2024 a été promulgué par le chef de l'État avant la mise en place, avant l'investiture du gouvernement Soumino. Donc, ce qui fait que les ambitions exprimées par le gouvernement Soumino dans les programmes que son Excellence Madame le Premier ministre avait présenté au Parlement n'étaient pas prises en compte au moment où le budget était discuté et promulgué par le chef de l'État en janvier 2024. D'où il faut prendre en charge tous toutes les ambitions du gouvernement et les intégrer là-dedans. Ainsi, on sera obligé de revoir, pas à la baisse, mais à la hausse.
À la hausse, bien sûr.
Le budget de l'État. Mmh. Alors, quand on va revoir à la hausse le budget de l'État, alors que nous avons des problèmes déjà pour atteindre les plafonds des assignations, et en plus on impute, alors je dis, soyons prudents. C'est une ancienne recette qui n'a pas donné des résultats escomptés. Il y a des solutions qu'on peut trouver à l'interne. Alors nous, au niveau des toiles d'araignée, nous nous sommes dit, commençons d'abord par faire des études. Et je vous dis, on a eu deux problèmes. Nous venons de mettre 2 semaines et demie pour rassembler les quelques informations que je veux mettre à votre disposition. En ce qui concerne le maïs, nous avons constaté que, d'abord, il n'y a pas de statistiques en ce qui concerne toutes ces productions.
Il n'y en a pas.
Les statistiques sont contradictoires les unes les autres. Donc, les services nationaux, nous sommes allés à l'INS, l'Institut National de la Statistique, mais les données qui sont là-bas, ce sont les données qui datent de très longtemps.
Oui.
Et quand vous allez même sur Internet, vous avez du mal
à trouver des
éléments. Pourquoi? Parce que les chiffres ne sont pas disponibilisés par les services compétents du gouvernement. Et nous nous sommes posé une question fondamentale.
Laquelle?
Nous nous sommes dit, nous sommes un pays à vocation agricole d'abord, avant d'être un pays à vocation minière. Pourquoi? Parce que nous avons, tenez-vous bien, Jody Kachama, nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Beaucoup de gens font une petite confusion là-dessus. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, mais il faut ajouter 40 millions de terres irrigables. Cela veut dire que nous avons 120 millions d'hectares d'espace, d'hectares où on peut cultiver à toutes les saisons. Alors, nous ne pouvons pas, en République démocratique du Congo, débourser parfois 3 milliards
par an.
Oui, pour 3 milliards à 3 milliards 500, il n'y a pas très longtemps,
pour importer
les produits, pour importer à manger. C'est un contraste. C'est comme si quelqu'un s'est trouvé au bord de la rivière et il est incapable de prendre le gobelet et prendre, puiser de l'eau pour boire. Oui. Alors que l'eau est juste sous ses pieds. Alors, juste
donc, cela veut dire qu'au lieu d'accorder ces exonérations, et il faut plutôt soutenir l'économie locale.
Les exonérations peuvent être accordées.
Oui.
C'est une stratégie à laquelle on peut recourir. C'est légal. Nous ne disons pas non. Mais nous avons demandé une étude préalable pour les raisons que je suis en train de vous expliquer.
Oui.
Donc, premièrement, nous avons constaté que le potentiel est là. Il faut seulement remettre les Congolais au travail pour que nous puissions arriver à l'autosuffisance alimentaire. Cela n'a pas été fait depuis l'indépendance.
D'accord. Un instant, on va accueillir les auditeurs qui sont très intéressés par ce sujet.
Mais ils pouvaient d'abord accepter que je développe, parce que si je développe, ils peuvent comprendre le bien fondé
S'il reste longtemps, bon, les lignes sont parfois capricieuses. On va juste enregistrer leurs questions et puis vous allez.
On enregistre les questions.
Oui.
Parce que je vais donner vraiment beaucoup d'éléments de précision.
Tout à fait.
Pour que les gens arrêtent de confondre que nous sommes en train de tirer à boulet rouge sur notre gouvernement, alors que ce n'est pas le cas. Nous avons fait des investigations scientifiques, nous avons les données, nous avons les chiffres qui parlent.
D'accord. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi et Alidor Lumumba, vous nous appelez depuis Mbujimayi. Ismaël, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, je dis Daniel Kacham, bonjour à l'invité.
Bonjour, quelle est votre question?
Oui, ma première préoccupation, c'est de savoir, j'apprécie d'abord l'élevé de certaines taxes, mais supprimer certaines taxes est une chose, et produire localement en est autre. Parfois, vous pouvez vous demander, mais pourquoi je dis ça? Nous n'avons pas une production locale assurée. Et tout celui qui importe ses marchandises, c'est bien lui qui doit fixer les prix. Même si vous allez supprimer les taxes, à qui tu le profites? À cette même population où on a dit de baisser et de supprimer la taxe ou pour favoriser leur vie en baissant les prix des marchandises. Je ne pense pas parce qu'en RDC, après cette mesure, il n'y aura pas les contrôles. Et ça, c'est qui tue cette population ou le peuple congolais. Tenez, si le peuple congolais produisait localement, cela pouvait leur faciliter la tâche. Mais à force qu'on ne produit pas localement et la plupart des choses sont importées, je ne pense pas. Ce que l'État pouvait faire, il pouvait d'abord stabiliser la monnaie, les taux d'échange. C'est ça ce qui tue plus. Bah, c'est lui dont on a favorisé quand même de supprimer certaines taxes. Il va vous dire, c'est les taux des dollars. Il a fallu assez qu'on stabilise un peu les taux des dollars. Cela pouvait aider aussi et les commerçants et la population.
Merci Ismaël.
Pour la deuxième préoccupation,
rapidement alors.
Je parlerai en termes de voies. Nous avons des voies routières, nous avons des voies fluviales. Mais si vous remarquez, pour faciliter quand même l'échange, la fluidité d'échange commercial, je pense que dans ces domaines-là, il y a encore un grand problème.
Donc, il faut réhabiliter les routes des dessertes agricoles.
À un dollar. Si vous allez à Mpweto, vous allez à Kasenga, là, je ne pense même pas que vous pouvez quitter la route directement vers Mpweto.
Merci Ismaël.
Vous allez du côté Kasomène, Kasenga, puis vous prenez soit la barge, vous allez du côté Kachobu, juste
merci.
Vous prenez un peu la
tâche. Merci beaucoup.
C'est ça, c'est qui nous facilite.
D'accord, ouais. Merci beaucoup. Alidor Mulumba de Mbujimayi, bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question,
Alors,
Alidor?
Alors, moi, je reviens aussi. Notre gouvernement est dans les tâtonnements. Je pense que vous vous rappelez, les années antérieures, il y a eu importation d'arrêts alimentaires par le gouvernement, les poissons de Namibie et tout ça pour...
on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Est-ce que vous pouvez passer directement à la question? Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Oui, la meilleure solution, moi j'ai demandé au gouvernement, qui est de supprimer les taxes pour les machines de transformation et de production.
D'accord.
Parce supprimer les taxes. C'est ce qui pose problème pour que notre population ne puisse pas produire.
D'accord, merci beaucoup. Jérôme Sekala.
Bon, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les deux auditeurs. D'ailleurs, ils nous rejoignent. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me laisse ne serait-ce que 5 petites minutes pour expliquer, parce que c'est un dossier extrêmement important. Je disais que le maïs, c'est l'aliment des bases de tous les Congolais. Si vous mettez dans les hit parades la nourriture que nous consommons en République démocratique, d'abord le maïs. Quand vous ne produisez pas, quand vous ne mangez pas le foufou avec le maïs, c'est tout un problème pour une bonne partie de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, eh bien, nous n'arrivons pas à produire localement, malgré les 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables. Et nous n'arrivons pas à l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une faute lourde que nous imputons à tous les gouvernements qui se sont succédés. Aujourd'hui, nous savons que, par exemple,
on parle de la
révanche. Le service national les chefs de l'État a doté ces services même avec un train. Ils ont des terrains ou des espaces partout dans toutes les 26 provinces. Il suffit d'investir ne serait-ce qu'un milliard au niveau de ce secteur-là et vous aurez des résultats. Le chef de l'État a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. En d'autres termes, cela veut dire que nous devons diversifier les sources de financement de notre économie. Vous savez que l'économie congolaise, la croissance de l'économie congolaise est tirée par le secteur extractif, en premier les mines, mais on peut diversifier. Les mines, là, ça ne prend pas beaucoup, parce que nous visons ici non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais la création de l'emploi. Je vais vous donner les chiffres. Mais lorsque on exonère certains produits dans des secteurs où on crée de l'emploi, les secteurs de l'agroalimentaire fournit à la République démocratique plus ou moins 1,5 million emplois. Donc vous avez le maïs, c'est tout un problème. Il y a quelques temps, vous aviez vu toute une délégation de membres du gouvernement qui s'était déplacée pour aller commander le maïs en dehors du pays, alors que nous pouvions le faire en République démocratique du Congo. Vous prenez le manioc, la même chose. Nous avons même des scientifiques qui ont développé le système qui permet à ce que nous puissions consommer, nous passer 10 000 et consommer le pain fabriqué
à base de manioc. Oui, bien sûr.
Le riz de Bumba est en train de pourrir là-bas. Et vous avez également...
Parce qu'il n'y a pas de route des desserts agricoles, il n'y a pas de moyens d'évacuation.
Voilà. Si vous prenez, par exemple, pour l'huile des palmes, le pays a besoin de 550 000 tonnes d'huile des palmes. C'est ça l'offre dont on a besoin. Mais le pays en soi produit, vous avez les industriels et la production artisanale confondue, 301 000 tonnes l'an. Donc le gap est de 200 000 tonnes. Les 200 000 tonnes là, on peut trouver une solution à l'interne.
Laquelle par exemple?
Bon, d'abord, il faut, vous savez, l'agriculture, c'est un secteur de croissance économique par excellence. C'est un secteur où vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expertise. Pour cultiver la terre, vous n'avez pas besoin d'un diplôme. Il suffit qu'on vous montre comment on tient la houe, comment on tient la machette, ainsi de suite, et vous allez vous en sortir. Donc, c'est un secteur créateur d'emplois massifs. Donc, il suffit d'investir dans ces secteurs-là et vous avez le résultat tout de suite. Et les plus grands milliardaires au monde, ce sont des milliardaires issus des secteurs agricoles. C'est-à-dire, quand vous investissez dans la terre ne trahit jamais son investisseur. Donc, on devrait comprendre cela.
Mais avec le changement climatique,
bien sûr,
parfois les rendements, ça ne donne pas comme
avant. En République démocratique du Congo, parfois nous n'avons même pas besoin d'engrais. Vous comprenez que c'est un pays béni. Alors, il suffit d'investir dans la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Vous comprenez? On investit, quand vous regardez dans tous les gouvernements qui se sont succédés ici, l'investissement dans la réhabilitation des routes des dessertes agricoles n'a pas été consommé comme prévu. Donc, on néglige cet aspect des choses. On peut également mettre à disposition les moyens de transport sur le majestueux fleuve Congo. On peut mettre des barges est à disposition des agriculteurs pour déplacer tous ces produits, des lieux de production vers les lieux de consommation. On peut, donc il y a plusieurs façons. On peut demander à ceux-là qui sont dans les secteurs de pouvoir importer. Pourquoi nous disons que c'est mauvais? Nous disons que c'est mauvais parce que quand vous regardez, nous avons des industries ici en République démocratique du Congo qui raffinent. Nous raffinons ici et l'huile raffinée, par exemple, c'est 249 000 tonnes. Vous comprenez? Alors, vous avez Boussir Alomami qui raffine, vous avez Palmco qui raffine, vous avez Compagnie des commerces et des plantations qui raffinent, Marsavco raffine, Plantation et Huilerie du Congo raffine, Société des cultures, toutes ces sociétés-là emploient des Congolais. Mmh. Alors, lorsque vous ouvrez les frontières, vous supprimez les taxes et vous dites aux importateurs de faire
entrer... Pour la plupart sont des étrangers.
Des étrangers. L'huile vient de la Malaisie. Et
De l'Indonésie, on ne sait pas.
La Malaisie, souvent, c'est le riz. Mmh. Et puis, vous demandez à ce que ces gens fassent entrer en quantité énorme. C'est pour permettre à la population d'acheter à vil prix parce que son pouvoir d'achat a connu une certaine érosion.
Oui.
Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites par là? Lorsque vous faites ça, vous tuez l'industrie locale.
Oui. C'est qu'il faut faire,
La production locale.
Oui.
Nous avons des problèmes de notre stabilité, de la stabilité de notre monnaie. C'est à cause de l'absence de la production.
On ne produit pas.
Nous ne produisons pas assez. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Vous voyez, pour des raisons de devises, nous produisons par exemple les minéraux que nous vendons, mais la valeur ajoutée permet, c'est au niveau de ceux qui vendent à l'étranger là-bas.
Mmh.
Et ce n'est pas pour les Congolais. Alors que on devrait créer plus d'emplois dans les secteurs miniers. Ne pensez pas qu'il y a beaucoup d'emplois là-bas. C'est dans les secteurs agricoles. Je vous donne un seul exemple. PHC, par exemple. PHC emploie 10 000 personnes. Il y a même des sociétés minières qui n'emploient pas 10 000 personnes. Et au niveau des PHC, par exemple, il y a une politique agricole. Ils ont distribué 40 tonnes des semences améliorées, du riz, du maïs, donner des boutures de manioc. Permettre à ces populations-là de pouvoir, parce qu'ils ont 100 000 hectares, de pouvoir cultiver et de produire pour l'autosuffisance alimentaire, mais également pour gagner leur vie, de vendre. Il y a même Equity BCDC qui est descendu là-bas pour essayer de leur donner des prêts. On leur accorde des prêts.
Alors, entrepreneurs au niveau local, tout ça, au niveau du village.
Alors, pendant que les opérateurs qui ont investi dans les secteurs fournissent des gros efforts comme ça, alors vous cassez, vous ouvrez grandement les frontières, vous supprimez les... Alors tous ces gens-là vont importer et en cas de choc...
ça va étouffer la production locale.
Bien sûr, en cas de choc exogène,
oui.
Comment on fait? Vous avez connu, la Covid nous a donné des leçons ici. Mm-hmm. C'est un choc exogène majeur. Mais comment va se développer ce qu'on appelle la résilience économique à l'intérieur du pays pour rebondir après ces chocs exogènes? Il n'y a pas de solution. Voilà pourquoi nous avons dit ceci.
Jérôme Segal, un instant, les auditeurs sont nombreux et qui veulent intervenir. On va les accueillir rapidement. On parle de la lutte contre la vie chère en RDC, que peuvent être les effets de la suppression de certaines taxes à l'importation. On va accueillir Yves Mouyaya de Kinshasa, Maître Naomi Boufou qui est en Bandaka et Justin Kalabia à Goma. Yves Mouyaya de Kin, bonjour. Quelle est votre question? Yves Mouyaya, bonjour. Yves n'est plus là. On va accueillir Maître Naomi Boufouki de Mbandaka. Ah, Yves,
vous êtes là.
D'accord. On vous écoute, Yves.
Je suis là, oui. Merci beaucoup, monsieur Edouli. Moi, je soutiens parfaitement monsieur Chakan, hein, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est exactement vrai, parce que dans notre pays, la production interne pose toujours problème. Et lutter contre la vie chère est fonction de la loi de l'offre et de la demande. Et si nous produisons sur le plan interne, nous allons faire face à la vie chère. Pourquoi? Parce que vous savez, maintenant, il y a un problème de conjoncture économique internationale. Là où nous avions toujours l'habitude d'aller importer les marchandises, surtout les produits alimentaires tels que les sucres, le riz, etc. Maintenant, il y a la guerre en Ukraine, etc. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au Congo, nous ne sommes pas en mesure de trouver solution aux problèmes alimentaires. Donc, la suppression des taxes telles qu'on est en train de les lever par le gouvernement, je ne pense pas que c'est une solution. Parce que, déjà, le gouvernement, dans son budget, je crois que 50% déjà du budget, vient des recettes qui sont effectuées par les régies financières. Alors, sinon, nous allons supprimer ces recettes-là. Comment nous allons trouver solution au problème de dette intérieure que nous ne sommes même pas en mesure de payer déjà? Donc, ce n'est pas une solution. Je crois que nous devons beaucoup plus nous investir sur la production interne, parce que ça date de longtemps, comme l'État fait, que nous ne produisons pas sur le plan interne. Les grandes économies, mais si je dis dans le monde, sont d'abord des économies agricoles. Prenez les USA, vous prenez l'Allemagne, vous prenez la France, la Chine, prenez même l'Afrique du Sud, là. Ce sont des économies d'abord agricoles. Mais chez nous, ici, nous avons autant d'hectares, tout ça, ce qu'on est en développement. La production interne sur le plan agricole, c'est zéro. D'ailleurs, c'est une honte pour nous d'aller toujours importer des aliments à l'étranger. Pendant que dans ces pays, nous n'avons même pas des déserts, monsieur, je dis.
D'accord. C'est une honte pour nous. Merci beaucoup. Faire en sorte que... Oui. Booster la production interne. Merci Yves Miaya de Kinshasa. Maître Naomi Bofuki de Mbandaka, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Maître Naomi, vous êtes là? Bien, on va accueillir Justin, elle est là. Maître Naomi? Allô? Bien, on va accueillir Justin Kalabia de Goma. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à...
Bonjour, monsieur.
Oui, d'accord. Bonjour, Justin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allô, Justin? Justin Kalabia, vous êtes là? Bon, il y a quelques soucis.
Est-ce que je suis tout à fait d'accord avec Yves Mouyaya. Non, il comprend. Vous savez que nous avons le potentiel. On ne peut pas importer ce que nous pouvons produire localement.
Maître Naomi est là. Maître Naomi, vous êtes là, bonjour.
Bonjour, jeudi. Merci encore de m'avoir associé à ces débats.
On vous écoute.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ces structures toiles d'araignée. Parce qu'ils ont bien réfléchi. Nous vivons à l'intérieur du pays, dans les provinces. À entendre la décision du ministre, ça fait du genre, c'est une décision qui concerne la ville de Kinshasa ou la capitale de la République démocratique du Congo. Parce que ici, nous, par exemple, en Mbandaka, je donne le cas de ma ville, nous ne consommons presque pas les riz étrangers. Vous voyez, nous consommons les riz produits localement. Et quand on prend une décision pour, je sais pas, supprimer les taxes pour les riz étrangers, ça n'a pas de fait sur nous, la population de Mbandaka, parce que la majorité de la population de Mbandaka consomme localement. Alors, nous avons l'impression comme si le membre du gouvernement, en entrant en fonction, ils veulent qu'ils soient impressionnés, la population, au lieu de prendre des décisions qui sont durables. Et qui bénéficiera, qui fera en sorte que la population puisse bénéficier d'une manière un peu durable. Et aussi, je voulais justement donner souligner le fait de la réhabilitation des dessertes agricoles.
Des routes des dessertes agricoles.
Ouais. Aujourd'hui, dans notre route des dessertes agricoles, dans notre province, il y a des maïs qui pourrissent dans des villages. Hein. Dans des villages, les maïs pourrissent, le riz, il n'y a pas de moyen de transport même pour l'évacuer au niveau de la ville de Mbandaka. Et vous dites que notre production locale est insuffisante et tout ça, alors que ça pourrisse là-bas dans des villages. Il n'y a pas de moyen d'évacuer. Donc, c'est aussi un manque à gagner quand le gouvernement qui, à chaque fois, à chaque mandat, dans des déficits budgétaires et tout ça, et supprimer encore les taxes là, c'est vraiment un manque à gagner pour le gouvernement congolais. Voilà, c'est un peu ma participation.
Merci beaucoup, Maître Naomi Bofuki Dembandaka. Jérôme Sekana.
Tout à fait d'accord avec Maître Naomi. Elle a parfaitement raison. C'est ça le sens de notre combat. Comment voulez-vous que nous puissions importer du poisson chez un chat qui contient même des formoles dans des maisons ici, et vous savez, les taux de cancer est très élevé dans des milieux urbains parce que nous consommons parfois de la nourriture de très mauvaise qualité, alors que si nous pouvions arriver à produire localement, nous mangerions bio. Et lorsque on mange bio, on est en très bonne santé, les citoyennes et citoyens sont en très bonne santé, et les quotients intellectuels augmentent.
Mais donc, le problème qui est là, Jérôme, c'est qu'à si on supprime les taxes...
C'était une parenthèse, je ne dis pas qu'on puisse supprimer les taxes. Ici, il faut qu'on s'en comprenne.
Oui.
J'ai dit ceci, nous avons le maïs, un déficit criant. Nous pouvons importer, mais il faut quantifier la quantité qui doit venir de l'extérieur et prendre des mesures d'encadrement. Le manioc, nous devons savoir qu'est-ce que nous produisons. Est-ce que l'argent que nous voulons dépenser pour aller acheter le manioc à l'extérieur, on ne peut pas, par exemple, désenclaver les routes dans les Congo central, et ainsi de suite, et arriver au résultat qui est beaucoup plus meilleur que d'exonérer. Le riz, la même chose. Et vous pouvez vous imaginer les poissons mères de vieillesse dans les lacs Tanganyika, le majestueux fleuve Congo. Il n'y a même pas de chalutiers. Les chalutiers coûtent combien?
Donc c'est pour cette raison, si on accorde les exonérations, il y aura un effet immédiat sur le panier de la ménagère.
Non, les dangers.
Mais si on veut aller réhabiliter les routes, tout ça, ça prendra du temps.
Ça ne prendra pas. Nous disons ceci. Qu'on exonère. Mais on ne doit pas exonérer. On ne peut pas exonérer à l'aveuglette. Il n'y a pas eu des études et des faisabilités cohérentes. Je viens de vous donner les chiffres ici. Est-ce que pour l'huile de palme, pour 100 000 tonnes, on peut vraiment accepter que l'huile raffinée entre dans ces pays pour tuer l'industrie locale? Est-ce que pour 100 000 tonnes, est-ce qu'on ne peut pas permettre aux importateurs locaux de pouvoir importer? C'est l'encadrement dont nous parlons ici. Nous parlons de l'encadrement. Nous disons, le gouvernement, tous les gouvernements qui se sont succédés ont échoué dans la mesure où ces gouvernements n'ont pas amené le pays à l'autosuffisance alimentaire dans un pays qui est d'abord un scandale agricole avant d'être un scandale géologique.
Alors si je comprends bien, il y a des produits pour lesquels on peut accorder l'exonération,
le
mais pas d'autres.
Non, les maïs.
Il y a d'autres produits qu'on peut exonérer, mais pas d'autres.
Comprenons-nous, je dis.
Oui.
Je donne un exemple. Le pays a besoin d'un million de tonnes de maïs pour que tout le monde mange à sa faim. Ok? Nous sommes paresseux, reconnaissons-le. Nous avons 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables que nous ne savons pas mettre en valeur. Je vous informe que c'est seulement moins de 10% de ces espaces terriens
qui
sont exploités. Ce qui est une insulte même à notre intelligentsia. Alors, si nous disons que c'est 1 million, nous regardons. Kanyamakassé s'est produit combien? Et les gouverneurs du Haut-Katanga produit combien? Nous arrivons par exemple à 500 000. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons que les 500 000 tonnes, nous disons que le reste, les gros, près de la moitié, nous devons importer. Alors nous encadrons, nous disons, nous choisissons les Congolais. Parce que quand vous faites entrer les expatriés ou les étrangers dans ces genres de marchés, il y a un danger. Le premier danger, c'est que vous créez de l'emploi là-bas. Vous faites les devises partent
chez eux.
Et puis ici vous tuez l'industrie locale. Mais par contre, si vous favorisez l'industrie locale ou si vous favorisez les entrepreneurs congolais, vous leur donnez une marge de manœuvre, que ce soit eux qui viennent, et pour éviter les dumpings. Itex Africa, nous sommes non loin de là ici. Itex Africa a disparu. Pourquoi? C'est à cause des dumpings des Chinois. Ils sont tués, Itex Africa. Vous allez à Kisangani, Soteski, Badelel. C'est à cause du dumping. Alors ça, c'est les dumpings. Les dumpings en économie.
C'est quoi les dumpings? C'est toujours mieux d'expliquer.
Les dumpings, c'est le fait que vous importez les produits de l'étranger en grande quantité. Et ça rentre un coup dur. Ces produits coûtent très moins cher que le produit locaux.
Et ça tue
l'économie. Je donne un exemple.
Oui.
J'étais à Kisangani dernièrement. Il y a un monsieur un jeune entrepreneur, je ne saurais pas donner son nom à l'antenne, mm-hmm. parce que je n'ai pas demandé son autorisation, il était en train de fournir les œufs et les poules de chair à PHC, Plantation et Huilerie du Congo.
Oui.
Et ce monsieur a commencé à avoir 10, 4, il est arrivé même jusqu'à 50 personnes qu'il employait. Du coup, un opérateur économique est venu de l'Ouganda. Il a distribué des enveloppes kaki à Kisangani, et du coup, le gouvernement provincial...
Distribué à qui?
Suivez mon regard.
D'accord.
Et du coup, du jour au lendemain, on a vu le gouvernement provincial décider, écoutez, et nous autorisons l'importation des œufs et des poules de chair.
De
l'Ouganda. C'est arrivé, le monsieur n'a pas résisté parce qu'il n'entrait plus dans ses coups.
C'est fini.
Il était obligé de fermer. Mais je salue ici la décision des autorités des PAC. D'abord, ils ont dit, pas question. Nous ne consommons pas les œufs, tout comme les poules de chair en provenance de l'Ouganda. Nous allons consommer congolais. Et ils ont pris le monsieur, ils l'ont amené à l'usine, ils lui ont donné les moyens, le monsieur a repris son business à l'usine en disant, vous produisez ici et vous nous vendez ici. Et c'est ainsi que le monsieur s'est retrouvé. Il a survécu économiquement.
Non, sinon il était déjà passé.
Alors, il y a combien de compatriotes qui se trouvent dans cette situation-là? Donc, il faut que nous ayons des entreprises citoyennes. Nous ayons des autorités qui réfléchissent d'abord Congo.
Est-ce que les agriculteurs, les producteurs congolais sont organisés? Est-ce qu'ils ont même des structures? Ils sont bien organisés.
Mais qui doit les organiser? C'est le gouvernement, non? Le ministère de l'Agriculture, quel est son travail? C'est le gouvernement. On ne peut pas... La population est là. Vous avez une main-d'œuvre disponible. C'est pour cette raison qu'il y a des jeunes gens qui se font recruter dans les groupes armés parce qu'ils n'ont rien à faire. Des mains qui chôment. Ils ne savent pas cultiver la terre. C'est extrêmement grave.
Voilà. Écoutez, Jérôme Sekana, Joseph Botey de Kinshasa nous dit ceci. La meilleure solution, d'après lui, est d'intensifier le service national sur toutes les provinces de la RDC
pour la
production des denrées alimentaires.
Nous l'avions dit. D'ailleurs, nous avons dit que le gouvernement doit aligner. Vous savez que le gouvernement devrait disponibiliser plus ou moins 20% du budget national à investir dans l'agriculture.
Le service national fait déjà un travail
extraordinaire. Nous saluons, mais dans notre réponse au gouvernement, nous demandons qu'on mette à la disposition du service national 1 milliard de dollars chaque année. Comme ça, avec ce que fait le service national.
Quel est le budget actuel alloué au service
national? Bon, je ne sais pas. Ce qui est vrai, que le gouvernement, le chef de l'État a doté le service national d'un train, ce qui est déjà un bon pas. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Les Kuluna, qui nous menaçaient avec des machettes ici, sont devenus des
bâtisseurs. Voilà.
Ça, c'est un bel exemple. Alors, comme le service national a des espaces à cultiver dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, il y a une expertise agricole au sein du service national, eh bien, il faut donner les moyens là-bas. Ça, c'est la première des solutions. Mais il faut aussi encourager...
Donc, si on injectait 1 milliard de dollars au sein du service
national...
Dans moins
de 5 ans, on arrivera à l'autosuffisance alimentaire. Regardez le prix des produits des denrées alimentaires, quand les services nationaux apportent, c'est la moitié, si pas le un tiers des prix qu'on nous propose ici. C'est ça aussi, de cette manière qu'on peut baisser le prix. Et puis, il n'y a pas que le service national. Il y a de jeunes gens qui n'attendent que l'encadrement du gouvernement. Il y a des gens qui veulent investir dans la terre. Et les banques, comme Equity BCDC, sont en train d'appuyer...
Les jeunes qui se lancent dans la
business.
Mais
bien sûr, je vous informe que les jeunes gens... Ils ont, les portes de cette banque sont ouvertes. Je prends seulement
un instant. Un instant, Alidor Moulumba nous appelle de Mbujimayi. Alidor, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre la vie chère en RDC?
Moi, je voudrais proposer au gouvernement, pour intensifier la production locale, il faut qu'on puisse voir les cycles d'orientation, les classes de 7e et 8e, transformer ces cycles d'orientation-là en cycles agricoles, où les enfants vont apprendre à produire elles-mêmes leur nourriture. Et à ce moment-là, vous verrez que quand l'enfant termine les 2 ans des cycles agricoles, il sera peut-être capable à faire l'agriculture tout comme à faire l'élevage. Et cela va aussi favoriser la production locale. Si vous remarquez sur le marché, vous allez trouver que les produits qui sont importés
sont moins chers que les produits localement. Comment expliquer ça, cette situation-là?
Merci Alidor Moulumba. Jérôme Sekala.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est un problème de civisme. Nous, au niveau des toiles d'araignée, nous avons toujours demandé au gouvernement d'accorder une très grande pondération au cours des civismes. Et dans les cours des civismes, il faut vraiment amener le jeune à s'approprier cette nation ici. Nous sommes allés plus loin au regard de ce qui se passe à l'Est de la guerre. Nous avions demandé au gouvernement de rendre obligatoire la formation militaire, pas seulement l'agriculture. Nous avons dans ces pays le potentiel, et là on peut avoir une armée de 1 million d'hommes sous les drapeaux. Et tout le monde doit savoir manipuler les armes pour essayer
pour défendre
la patrie. Donc ce sont des secteurs très importants où le gouvernement doit investir. Donc je suis d'accord, on peut éduquer nos enfants, on peut les apprendre à faire même des
potages, oui,
tout ça. C'est ça, parce que lorsque vous les têtes sont formatées, les gens ici disent hey, Tozos et la colie en piodi. L'impiodi là, mon ami.
Mais c'est pas aujourd'hui qu'on consomme le piodi.
Mais
depuis des années qu'on consomme le piodi.
Qui a dit que la République démocratique du Congo restera indéfiniment un pays importateur? Qui a dit ça?
D'impiodi.
Est-ce que vous savez que vers les années 60, on ne mangeait pas l'impiodi, c'était destiné aux chiens? Je vous dis, c'est une information. Dans les investigations, nous avons trouvé cela.
Okay.
Alors que nous avons des poissons bio qui meurent de vieillesse.
À un moment, on parlait d'un bateau de pêche.
On a commandé, il y a 5 bateaux qui seraient en fabrication, qui vont arriver peut-être avant la fin de cette année. Okay. C'est une bonne chose.
Oui.
Donc, nous sommes d'accord. Il faut que, même au niveau des écoles, qu'on apprenne à nos enfants à cultiver la terre.
Jérôme Sekana, si on doit booster la production interne, l'économie locale, par où commencer?
Mais d'abord, la sensibilisation. L'État doit montrer qu'il est État, réhabiliter les routes des centres agricoles, montrer aux gens que la terre ne trahit jamais. Quand on investit un dollar dans la terre, je vous dis que la terre vous renvoie 10 dollars. C'est pour vous dire que on peut devenir milliardaire, multimilliardaire en investissant dans la terre.
Souvent, il y a des problèmes de semences, il n'y a pas de semences de qualité, il faut les importer, tout ça.
Pour prendre encore l'exemple de Pierre Chéquet, parce que j'ai enquêté là-dessus. Vous pouvez vous imaginer que cette société a disponibilisé 40 tonnes.
Des semences
améliorées. Je l'ai dit ici. 40 tonnes de semences améliorées, de manioc, des riz, de maïs. Donc, et on a distribué gratuitement à la population. Pour que chacun puisse avoir un lopin de terre où il cultive.
Oui.
Et même pour prendre, faire l'huile de palme. Et la banque arrive avec l'argent, on vous donne un crédit. Et vous faites un planning avec la banque. Et du coup, comme ça, on dit, bon, c'est fini, vous vouliez vendre votre produit, par exemple, à 1000 francs, on vous dit, non, ça coûte déjà 500 francs à Kinshasa. Qui va acheter encore pour vous? Ça n'a pas de sens.
Mm-hmm.
C'est de cela dont il est question. Alors qu'il y a des projets. Là-bas, on veut construire une usine de biogaz pour donner du courant à tout le monde. Et vous avez les investisseurs. Et nous crions, il y a toute une grande délégation qui se trouve en Chine. Nous appelons les gens là-bas, écoutez, venez investir. Mais les gens vont venir, les investisseurs vont venir pendant que vous maltraitez les investisseurs qui sont ici. Il y a d'autres investisseurs qui ont investi des milliards dans les différents secteurs en République démocratique du Congo pour booster la production.
Mmh.
D'abord, il faut bien les traiter. On ne peut pas, nous ne pouvons même pas prétendre atteindre ce qu'on appelle l'émergence à l'horizon 2030 avec un tel comportement.
On parlait tout à l'heure du riz de Bumba. Est-ce que ce riz est toujours produit aujourd'hui?
Mais il est là, il pourrit. Il pourrit.
Maître Naomi nous a dit que là-bas, en Bandaka,
mais je vous dis,
on ne consomme que le riz produit localement.
Prenons le cas de Bumba. Le gouvernement prend des barges. Il y en a plein ici. On peut même réquisitionner des barges. Voilà. Le gouvernement met à la disposition des agriculteurs de l'Équateur. Mettez votre riz là-bas.
Mettez vos produits. On va les amener à Kinshasa.
Mais papa, nous serons. On peut même acheter les sacs. Vous savez, pour parler du riz, papa, est-ce que vous savez que au jour d'aujourd'hui, la tonne métrique du riz sur le marché international est de 15 dollars. Je pèse bien mes mots. 15 dollars.
La tonne.
Cela veut dire, vous avez 20 sacs de 50 kilos. À 15 dollars. Rendu matin d'ici, la tonne ne peut même pas atteindre 20 dollars. Est-ce que vous me comprenez? Alors, quand ça arrive à Kinshasa, on vous vend les sacs de 50 kilos là à $50. Donc $50 fois 20, c'est comme, vous avez $2000 déjà. Mmh. Hein? Donc oui, hein? $50 5 fois 2, donc vous avez 1000 dollars.
$1000, oui.
Donc là où vous avez dépensé $15, vous gagnez $1000. Vous vous rendez compte combien on nous prend pour des bourriques? Mais et ils vont vous dire, écoutez, c'est parce qu'il y a beaucoup de taxes, beaucoup de taxes. Mais est-ce qu'on ne peut pas produire? Est-ce que vous pensez que nous pouvons acheter au même coût les riz en provenance de Bumba? Non. Si le gouvernement subventionne l'agriculture, oui, si le gouvernement met à la disposition des agriculteurs toutes les facilités, arrive à désenclaver les voies d'évacuation, notamment en réhabilitant les routes de dessert agricoles. Mmh. Mais le sac de riz que nous achetons à $50 et de très mauvaise qualité encore.
Bien, Jérôme Sekana, on est arrivé à la fin.
Nous allons l'acheter, oui, à $10.
Alors,
c'est ça le chemin que nous proposons au gouvernement. Le, oui, gouvernement doit arrêter de prendre des mesures faciles. Hein? Lorsque vous avez un malade, il a une grosse plaie au pied, il ne faut pas venir les soigner avec des miraculums. Hein? Et si c'est une plaie cancérigène, il faut utiliser des antibiotiques très forts.
Voilà.
Et ne vous précipitez pas à couper les pieds parce que le malade peut encore se mettre debout et marcher.
Ben voilà. Merci beaucoup Jérôme Sekana, on est arrivé à la fin de cette émission. Je rappelle
mais
que
c'est
vous
passé
êtes,
vite, je reviens quand.
Bon, le temps passe très vite.
Moi j'ai besoin de discuter avec les auditeurs.
Avec
là,
les auditeurs.
La matière bien est abondante, on n'a pas parlé de la viande.
Il y a pas de souci.
Moi j'aimerais manger la viande qui vient de Goma. Le,
oui,
sucre, il y a beaucoup de sucreries ici.
Il y a pas de souci, vous allez revenir, on aura le temps de d'en parler. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.